T'es en pleine période de partiel et tu partages toute ta vie à ChatGPT pour te réconforter en ce dur moment. Moi, je te propose plutôt de passer une petite heure avec nous. Bonjour, toi qui m'écoutes, bon appétit si tu manges entre deux cours. T'es en train d'écouter la nouvelle saison d'Étudiant Time, l'émission qui s'adresse aux étudiants en études sup, en galère ou non, pour des tips et astuces sur ta vie d'étudiant. Moi, c'est Myria, animatrice de cette émission et étudiante en psychologie à l'UCO d'Angers. Je passe mon temps à m'intéresser à des trucs et à te les partager ici. Je suis toujours accompagnée de Malo, notre nouveau chroniqueur pour te débusquer les bons plans, et Colin, qui est en études de journalisme à l'UCO, qui va t'informer des actus qui te concernent. Le dactylo sera également parmi nous, ainsi que notre invité du jour, dont je vais parler juste après. C'est parti, je vais annoncer le programme du jour. On va démarrer par le journal étudiant présenté par Colin pour avoir toutes les news qui concernent les étudiants en études supérieures. Puis, on aura un court temps d'échange. Pour les jeunes encore un peu hésitants, le focus étudiant présenté par le dactylo va vous informer à propos du BTS communication de l'ESA. Après ça, je vais recevoir une invitée incroyable avec qui on parlera du quotidien avec la maladie de Parkinson. Ensuite, vous écouterez l'astuce étudiante pour savoir comment voyager sans le sou grâce à notre ancienne chroniqueuse Marine. On aura un court échange à ce propos avec les personnes présentes sur le plateau. Bien sûr, on n'oublie pas la chronique santé mentale pour expliquer pourquoi les gens utilisent ChatGPT en guise de thérapeute. Un débat de 10 minutes sur le sujet aura lieu entre nous sur le plateau. Et enfin, on aura le droit à la chronique Ça sort où, présentée par Malo, qui va nous donner les événements à venir pour te divertir. On commence l'émission avec les actus de Colin dans le journal étudiant.
Bonjour Myria et bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, le retour de soleil d'hiver à Angers. On parlera ensuite de nouveautés dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Et on terminera avec le forum de l'orientation qui revient à Angers. Un rendez-vous incontournable pour préparer son avenir, que l'on soit lycéen ou bien étudiant en quête de nouvelles pistes. On commence donc ce journal avec une nouvelle qui risque de faire plaisir à pas mal d'étudiants angevins et pas seulement aux amateurs de vin chaud. Les festivités de Noël sont de retour à Angers avec l'ouverture de Soleil d'hiver. Comme chaque année, la ville se transforme en véritable village de Noël avec des chalets, des animations et des illuminations un peu partout dans le centre. Pour cette édition 2025, plusieurs nouveautés font leur apparition. Un cœur lumineux installé sur la place Kennedy, déjà pensé pour devenir un spot photo très prisé, et une grande tour en bois au jardin du Mail qui accompagnera la grande roue. Et pour nous, étudiants, ce n'est pas qu'une info décoration de Noël. C'est aussi un bon moyen de décompresser entre deux révisions, de prendre l'air pendant la période des partiels et de profiter d'un peu de magie à deux pas des campus. Flâner au marché, boire un chocolat chaud, faire un tour au Mail après une journée de cours, c'est tout bête, mais ça fait du bien. Bref, une édition qui promet d'être très fréquentée et qui devrait une nouvelle fois mettre un peu de lumière dans la fin d'année en juin. On continue avec une bonne nouvelle pour les étudiants du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. La tour Type, qui accueille déjà plus de 180 logements étudiants, va enfin se remplir un peu plus. Le rez-de-chaussée, un espace resté vide depuis plusieurs mois, va bientôt accueillir une mutuelle pensée pour les étudiants. Pratique pour faire ses démarches sans traverser toute la ville. Autre info sympa, une salle de sport Keep Cool ouvrira d'ici la fin de l'année sur 600 m². Le meilleur moyen de reprendre une routine sport à son rythme. Et juste à côté, le Café Village va élargir son offre. À partir de janvier, il proposera de la restauration le midi et le soir, en plus de ses espaces de coworking déjà très utilisés par les étudiants et les jeunes actifs. Un quartier qui continue donc de bouger et qui devient de plus en plus pratique pour la vie étudiante. Et on termine avec un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui réfléchissent à leur avenir, et je suis sûr qu'ils sont nombreux à nous écouter. Le forum de l'orientation revient les 5 et 6 décembre au parc des expositions d'Angers. Un bon moyen d'aider les lycéens, mais aussi les étudiants, à y voir plus clair dans leur choix d'études, d'alternance ou de réorientation. Les visiteurs pourront découvrir les pôles métiers, où l'on peut manipuler du matériel, assister à des démonstrations ou simplement discuter avec des professionnels. Santé, bâtiment, hôtellerie, restauration, c'est l'occasion parfaite pour tester un domaine ou confirmer une idée. Le salon propose aussi un pôle orientation, animé par des psychologues de l'éducation nationale et des conseillers spécialisés. On y trouve des infos sur la vie étudiante, les formations, l'insertion professionnelle et même des ateliers pour mieux identifier ses centres d'intérêt. L'entrée est gratuite, il suffira juste de télécharger une invitation. Le salon sera ouvert de 9h à 20h vendredi 5 décembre et de 9h à 18h samedi 6. Un bon moyen d'avancer dans son orientation, à son rythme et sans pression. Voilà pour moi en ce qui concerne les informations principales. Je voudrais maintenant revenir éventuellement avec vous sur la première info dont j'ai parlé, le retour des soleils d'hiver à Angers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est important pour vous ? On dit souvent que la période de Noël commence à ce moment où le centre-ville se remplit d'illuminations, de chalets. Est-ce que, en tant qu'étudiant ou pas, vous souhaitez aller faire un tour ?
Moi, je trouve que c'est toujours hyper charmant. Toutes les petites décos, les petites maisons dans le centre du ralliement. Après, je sais pas, enfin, je ne connais pas spécialement en dehors de ça. J'ai jamais trop fait attention s'il y avait des événements particuliers dans Angers en cette période.
Et toi, Malo ?
Moi, je trouve que c'est assez cool en vrai. Enfin, ça donne de la vie dans le centre-ville. Et ça amène de la vie, ça amène de l'animation. Donc, c'est toujours sympa. Moi, personnellement, j'y vais presque chaque année en vrai, avec mes amis surtout. Et puis je trouve que pour à peu près tout le monde, en fait, tout le monde peut trouver son bonheur, soit les personnes âgées, les adultes, les étudiants, les enfants, les ados, tout le monde en vrai, peu importe qui vous êtes, ce que vous aimez.
Et vous, madame, est-ce que vous aimez bien ce genre de marché de Noël ou pas vous ?
Moi, j'ai beaucoup fréquenté le soleil d'hiver quand je travaillais en ville. J'ai trouvé ça toujours très joyeux et c'est un lieu de rencontre très convivial, intergénérationnel, comme vous disiez tout à l'heure.
Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal étudiant. Entre ambiance de Noël, nouveaux services dans le quartier de Haute-Saint-Aubin et rendez-vous pour construire son avenir, l'actualité angevine continue d'accompagner la vie étudiante au quotidien. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur les infos qui vous concernent, vous, les étudiants.
Merci beaucoup Colin pour l'actualité. Allez, on poursuit. Maintenant, place au focus étudiant avec le dactylo sur le BTS communication de l'ESA.
Salut à tous! Aujourd'hui, on vous parle d'une formation qui pourrait bien vous intéresser. Surtout si vous êtes en galère Parcoursup, courage ou en plein doute sur votre orientation.
Oui, parce qu'on le sait, cette période entre les vœux et les résultats, c'est souvent l'angoisse. On se pose 1000 questions, on remet tout en doute, mais pas de panique, c'est normal.
Que tu sois en terminale ou déjà étudiant et que tu envisages une réorientation, cette chronique est pour toi. Parce que non, il n'est jamais trop tard pour trouver sa voie.
Et justement, aujourd'hui, on te parle du BTS Communication proposé par l'ESA à Cholet. Une formation qui mêle théorie et pratique avec de vraies perspectives derrière.
Alors l'ESA, c'est quoi ? C'est l'école supérieure de l'alternance. Elle est basée à Cholet, dans le Maine-et-Loire, et elle propose plusieurs formations dans des domaines comme l'administration, le commerce, la vente et bien sûr la communication.
Et leur BTS Communication peut se faire de deux façons. En initial, donc 100% à l'école, avec un stage de 8 semaines dans l'année, ou en alternance. Et là, c'est le top. 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, chaque semaine. De quoi mettre un pied directement dans le monde professionnel.
Et le budget dans tout ça ? Si tu choisis l'initial, la formation te coûtera 3 950 € par an. En revanche, si tu optes pour l'alternance, c'est ton entreprise qui prend en charge les frais. Et tu es payé. Si ça, c'est pas le top. Un vrai plus quand on veut apprendre tout en gagnant en autonomie.
Mais alors, on y fait quoi concrètement dans ce BTS ? Eh bien, tu vas apprendre à mettre en place des stratégies de communication, à gérer des supports digitaux et médias, et surtout à communiquer efficacement. À l'oral, à l'écrit, en visuel, tu vas développer des compétences solides et utiles.
Et les cours sont super variés. Communication, anglais, droit, économie, management ou encore culture de la com, une vraie boîte à outils pour ton futur métier.
Et ce BTS, il s'adresse à qui ? Au bac généraux, bien sûr, que tu viennes de SES, LLCE, AGGSP, ou même avec les maths, tu es dans le bon wagon.
Tu te souviens d'ESP ? Oh la galère, c'était quelque chose de bien difficile sur tous les maths.
Mais rassurez-vous, en études supérieures, ça devient bien plus concret. Vous allez enfin découvrir des matières qui vous passionnent vraiment.
Les STMG sont aussi bien représentés dans la promo. Et pour les bacs pro, c'est possible, avec un très bon dossier et beaucoup de motivation.
Ce qu'on attend surtout de vous, c'est que vous soyez à l'aise à l'oral, curieux, créatif, que vous aimiez écrire, vous exprimer, bref, que vous soyez motivé pour communiquer.
Et après le BTS, que faire ? Tu peux continuer avec un bachelor à l'ESA par exemple, comme le bachelor communication plurimédia ou le bachelor marketing digital, ou rentrer directement sur le marché du travail si tu préfères.
Les débouchés sont nombreux. Chargé de communication, community manager, attaché commercial, responsable des relations presse, c'est un secteur dynamique et en demande.
Donc si tu cherches une formation concrète, professionnalisante, qui te donne vraiment des compétences pour l'avenir,
le BTS Communication de l'ESA Cholet, c'est peut-être exactement ce qu'il te faut.
Prends le temps d'explorer, de poser des questions, d'aller aux portes ouvertes, même de contacter des anciens élèves. Ton orientation mérite qu'on s'y penche sérieusement.
Merci de nous avoir écoutés et surtout bon courage dans vos recherches. Rappelle-toi, ton avenir, c'est toi qui l'écris.
Et si tu veux réécouter cette chronique, direction radio-g.fr, rubrique Étudiant Time. À très vite.
Merci le dactylo pour ce focus. On espère que ça parlera à certains qui souhaitent partir dans cette voie. C'est le moment de vous présenter mon invité du jour. J'ai l'honneur de recevoir José Robert, qui est ma grand-mère. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend très peu parler à notre âge, la maladie de Parkinson. Pourtant, c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer. En France, elle touche environ 270 000 personnes et les chercheurs rappellent que 25% des malades ont moins de 65 ans. Autrement dit, ça concerne nos familles, ça nous concerne indirectement et ça mérite qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit. Pour en parler sans clichés, sans drame inutile, j'ai l'immense chance d'accueillir quelqu'un de très important pour moi, ma grand-mère, qui a accepté de témoigner avec beaucoup de courage. Bonjour mamie, bienvenue, merci d'être là. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter comment on t'a annoncé la maladie ?
Mais c'est moi qui me suis aperçue que j'avais quelque chose de bizarre, n'est pas habituel. On appelle ça la micrographie. Moi j'aime beaucoup écrire, j'écrivais beaucoup. Et un jour je me suis aperçue que je commençais à écrire et les lettres devenaient toutes petites, voire illisibles. Enfin, ça, une anomalie.
Oui, c'est le premier truc qui t'a vraiment fait te rendre compte que c'était pas normal.
Exactement. Et puis aussi, mon compagnon a remarqué que lorsque je marchais, je ne balançais pas les bras. La marche, ça aussi c'était bizarre. Donc j'ai consulté une neurologue qui m'a dit d'aller passer un DAT scan. J'ai attendu quelques mois avant que le diagnostic soit vraiment confirmé. Et le DAT scan a bien confirmé que c'était la maladie de Parkinson.
Pour les auditeurs, le DAT scan, c'est une imagerie cérébrale qui permet de voir les neurones producteurs de dopamine, pour voir s'ils sont atteints. C'est un examen clé pour détecter la maladie de Parkinson. Et quand tu as entendu le diagnostic, comment est-ce que tu l'as vécu ?
Mais moi, je suis quelqu'un qui... Je suis restée calme parce que je suis quelqu'un qui est capable de prendre du recul. La première question que je me suis posée, c'est bon, voilà, c'est pas très drôle ce que tu viens d'apprendre, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, avec cette maladie de Parkinson, encore inconnue pour moi? Je vais essayer de vivre en bonne entente avec elle.
Est-ce que tu as ressenti du jugement ou de l'incompréhension à ce moment-là?
Pas du tout. Non, je me suis surtout concentrée sur ma relation avec moi-même. Moi, je refuse de me poser en victime. Je me suis dit que je ne suis pas la maladie de Parkinson, je suis une personne comme tout le monde.
Exactement.
Qui est atteinte de la maladie de Parkinson, c'est la même chose pour tout handicap. Hein.
Concrètement, comment la maladie impacte ton quotidien aujourd'hui ?
Ben, c'est pas toujours facile le quotidien, parce que ben, pour moi, hein, ce n'est qu'un témoignage, c'est mon propre témoignage.
Bien sûr.
C'est la fatigue, une immense fatigue, ça c'est impactant. Et puis un manque d'équilibre aussi. Et donc c'est ça, la fatigue, la lenteur aussi, tout est plus lent et donc je mets plus de temps à m'habiller, à tout faire, préparer à manger. Tous les petits actes du quotidien sont plus longs pour les accepter.
Pour que les étudiants comprennent, dans Parkinson, c'est le système moteur et l'automatisation des mouvements qui sont touchés. Ce n'est pas une maladie de tremblement comme on l'entend souvent, c'est beaucoup plus complexe et ça peut varier d'une personne à une autre. On peut remarquer une perte d'équilibre, une rigidité musculaire, une fatigue extrême comme tu viens de le mentionner. des difficultés à rendre les gestes automatiques et même de la dépression. Et malgré ces défis, mamie, tu continues beaucoup d'activités.
J'essaye, en tout cas. Tout le monde, tous les médecins me disent qu'il faut bouger, il ne faut surtout pas rester dans son fauteuil, assis dans son fauteuil, et il faut faire des tas de choses. Donc j'essaie dans la mesure du possible, tant que je peux. Et donc ben, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire je vais au cinéma, au concert, j'aime l'histoire de l'art, je lis beaucoup, je reprends les langues qui me plaisent, espagnol, italien. Puis aussi je voulais souligner la présence de l'association France Parkinson, qui est très très précieuse pour tous les gens atteints de cette maladie-là, et qui propose beaucoup de choses très très sympas aux gens et qui nous permet de nous rencontrer et d'échanger. Comme par exemple, moi je fais de l'aïdogo, c'est une sorte de qigong qui est adapté aux gens atteints de Parkinson. C'est I do it, je peux le faire, je peux quoi. Donc ça c'est chouette, ne jamais baisser les bras. Il y a aussi le Blabla Park, c'est un site sur lequel on peut aller pour échanger avec les autres, et ça c'est très très précieux. Pour pas rester tout seul dans sa maison, dans sa coquille. Il y a les cafés rencontres pour les plus jeunes, pour les moins de 60 ans. Alors moi, c'est pas mon cas, mais il y en a encore beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup de jeunes qui sont atteints. Oui. Et là, il y a des tas de cafés rencontres qui sont organisés. C'est très sympa et très précieux pour eux. Des groupes de parole, il y a pas mal de choses. Le ping-pong aussi, qui est très bien, très très sympa, très très, très favorable, paraît-il.
Et dans les moments plus difficiles, est-ce que tu arrives quand même à faire ce genre d'activité? Comment est-ce que tu le vis?
J'essaie au possible d'y aller, mais il y a des jours où c'est pas possible. C'est vraiment trop, trop fatigant, trop dur. Et il faut que j'accepte de. Il faut que je m'autorise à ne rien faire. Voilà.
Exactement.
Il faut que je m'autorise à rien faire.
Et je pense que c'est compliqué des fois de.
Beaucoup, hein.
C'est ça. Je pense que c'est compliqué de se dire j'ai le droit, en fait, de rien faire. Et oui. Ben, je ne suis pas une autre personne ou pas moi si je m'autorise juste.
L'avantage, c'est qu'à la retraite, on n'a pas les contraintes qu'on a en travaillant, et donc voilà, c'est plus facile.
Est-ce que la maladie a changé tes relations sociales?
Ça, c'est plus compliqué, effectivement, parce que j'ai des tas de projets en tête, j'ai des tas de désirs, mais mon corps ne suit pas toujours. Et c'est vrai que je suis parfois obligée d'annuler des rendez-vous, des projets. Ça, c'est pas facile, voilà. Mais donc il y a des personnes, certaines personnes qui s'éloignent, mais d'autres qui restent et qui sont très présentes.
Pour les jeunes qui nous écoutent, quand un proche est malade, on se dit souvent « j'ai peur d'être maladroit, je veux pas déranger, je sais pas quoi dire ». Mais le pire, je pense que c'est le silence. Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes fassent dans ce genre de situation?
Moi, j'ai envie de leur dire de faire voler en éclats tous les tabous, les idées préconçues. Voilà, on est des personnes comme les autres, avec des difficultés, des difficultés à vivre le quotidien. Mm-hmm. Mais je leur demanderais surtout d'aller vers la personne, de dialoguer s'il a envie de dialoguer, d'oser poser des questions, enfin voilà, être naturel. Hein. Le dialogue est essentiel pour les uns comme pour les autres. Moi, je pense qu'on a tous quelque chose à s'offrir, que ce soit les plus âgés comme les plus jeunes. C'est très riche.
J'aimerais qu'on continue cette interview dans une deuxième partie. Mais en attendant, on va faire une petite pause musicale. Mamie, je sais que tu aimes beaucoup Henri Salvador. Et du coup, j'ai choisi la chanson « Jardin d'hiver ». Mais cette fois, interprétée par Voyou, que vous connaissez peut-être, vous qui m'écoutez. Pour un aspect un petit peu plus jeune. Du coup, ce sera Jardin d'hiver par Voyou. Bonne écoute.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie. L'attendre.
revoir un latte coé. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de l'attendre. Les années passent, qu'il est loin, là j'attends. Nul ne peut nous entendre.
De retour dans Étudiant Time, vous venez d'écouter Jardin d'hiver par Voyou. Je suis toujours en présence de ma grand-mère et on parle de la maladie de Parkinson qu'elle vit elle-même. On est dans une deuxième partie où je vais reprendre les questions de l'interview avec elle. Du coup, mamie, est-ce que la maladie a changé ta manière de voir la vie ?
Un peu forcément. En fait, je continue un petit peu le chemin que j'ai entrepris depuis de longues années, mais ça renforce, disons. Je vais aller à l'essentiel. À l'essentiel. Et je vais savourer chaque instant de la vie, parce que la vie qui est précieuse, je pense qu'elle est encore plus précieuse actuellement pour moi. C'est ça qui a changé fondamentalement. Et c'est bon, c'est positif aussi.
Complètement. Qu'est-ce qui te permet, du coup, de garder le moral ?
En fait, moi j'ai une phrase qui m'aide beaucoup chaque jour, c'est ne rien attendre, mais tout espérer. J'attends rien des autres, rien n'est dû, mais si ça vient, j'ouvre grand mes bras et j'accueille.
C'est vraiment une jolie phrase, je trouve. Pour ceux qui découvriront leur maladie jeune, ou pour ceux qui accompagnent un proche qui a atteint cette maladie, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais ?
Mais j'ai pas envie de donner de conseils, en fait. Je ne peux que témoigner, moi, de ce que je ressens. J'ai quand même envie de vous dire de bouger, de rencontrer des personnes surtout qui vous font du bien, ne pas rester dans votre coquille, d'aimer la vie, de faire ce que l'on aime surtout, se passionner pour les choses qu'on entreprend, se passionner pour la vie, bouger, continuer à vivre, voilà ce que j'ai envie de dire. C'est valable pour tout le monde, hein, pour moi et pour les autres.
Qu'est-ce que l'entourage peut faire pour vraiment aider ?
En fait, c'est être attentif. C'est chouette d'être attentif les uns aux autres. Et voilà, c'est continuer comme d'habitude, être attentif, ouvert. Et si on a envie de dialoguer, c'est bon, ça fait du bien. Et puis aussi, aimer.
Oui. C'est toujours trop mignon ce que tu dis, mamie. Pour les étudiants, souvent très pris par leurs études, leurs stages, leurs petits boulots, est-ce qu'un petit geste peut déjà changer beaucoup ?
J'ai oublié de dire quelque chose, je peux revenir en arrière ?
Oui, bien sûr.
Parce que je pense aux aidants, ceux qui accompagnent donc ceux qui sont malades. C'est très très important pour eux d'être soutenus. Et France Parkinson s'en occupe beaucoup.
Ça, c'est vrai, ils prennent pas en compte.
J'ai envie de le souligner parce que c'est vraiment une association qui tient compte des aidants.
C'est ça, ils prennent pas en compte uniquement les personnes touchées.
C'est un rôle difficile d'être aidant, très difficile. Voilà, donc je reviens à ta question.
Pour les étudiants, souvent très pris par leurs études, les petits boulots, leurs stages, est-ce que un petit geste de leur part peut déjà changer beaucoup de choses ?
Ben oui, ça peut être une visite, un petit appel, un petit message, un SMS, un appel téléphonique aussi. J'aime pas beaucoup ça, les jeunes, mais voilà. Un petit WhatsApp.
Notre jeune.
Et c'est aussi, ça peut être aussi partager des activités. Hein. Ça fait du bien.
Je d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes comprennent mieux sur cette maladie ?
Comprendre.
Par exemple, tout à l'heure, tu parlais un peu du « il faut qu'ils sortent de ces préjugés que t'aimerais... comment dire, qu'ils ne voient pas uniquement les personnes âgées, tout simplement, et même peut-être en dehors de Parkinson, comme... comme simplement des vieux comme ça, où on s'en fiche et tout, alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est tellement...
Moi j'ai toujours envie de dire que c'est ça, il faut vraiment, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, faire voler en éclats les idées reçues, dépasser les préjugés, s'informer.
C'est ça, s'informer.
S'informer, voilà, attraper quand même tous quelque chose à sa portée.
Exactement, et dans les deux sens.
Dans les deux sens.
Si tu devais transmettre une valeur ou un message aux jeunes qui nous écoutent, ce serait quoi ?
Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Mais il y a une phrase d'Edgar Morin, le sociologue que j'aime beaucoup, que j'ai envie de vous transmettre. Il disait « Savoir s'émerveiller et savoir se révolter sont complémentaires. » Et ça, je trouve ça très précieux. Les deux sont chouettes dans la vie. Elles sont indispensables, à mon avis. Donc ça, je l'offre aux jeunes qui m'écoutent.
Merci, Maëlle. Tu parlais aussi tout à l'heure de l'ouverture du cœur. C'est quelque chose que je pense va parler à beaucoup de gens et peut-être...
Oui, je ne vais pas ajouter l'ouverture du cœur, rester en lien avec les autres, être authentique, j'avais mis, puis aussi savoir savourer la vie. Quoi. Je reviens, je dis un petit peu toujours la même chose, mais c'est très très important.
Je pense aussi. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais qu'on retienne de toi ?
De moi, on sait que j'adore les livres. J'adore la littérature, donc c'est aussi une image qu'on a de moi, pour ceux qui me connaissent.
T'as beaucoup travaillé dans ce milieu-là.
C'était mon métier. Et il y a une valeur qui m'est très chère aussi, c'est la bienveillance. Ça, c'est... ça me tient à cœur. Mais aussi ma capacité à m'émerveiller. Ça, j'ai cette chance encore de pouvoir le faire.
C'est d'ailleurs une magnifique valeur que je partage grâce à ma vie. Et si tu pouvais t'adresser à la toi du futur, qu'est-ce que tu te dirais ?
À moi, je me dirais courage et sérénité.
Une dernière question. Quelle musique te donne du courage ?
Moi, je reviens toujours aux fondamentaux de ma jeunesse. Les chanteurs que j'ai adorés, que j'ai écoutés en boucle, je cite les plus grands pour moi, Brassens... Il y a Léo Ferré, Jacques Brel, Barbara, tout cela m'ont beaucoup aidé au cours de ma vie, de mon cheminement. Et je les réécoute toujours. Alors j'aime aussi le jazz et la musique classique, ça c'est éclectique. Hein. La musique classique qui crée une plénitude.
Complètement.
Et qui peut mettre en joie, vraiment. Enfin, toutes sortes de musique peut mettre en joie, mais moi la musique classique me met en joie aussi.
D'ailleurs j'ai une petite anecdote à laquelle ça me fait penser là tout de suite, c'est qu'il n'y a pas longtemps on est allé au concert d'Auristel, coucou Auristel si tu nous écoutes, qui est mon amie chanteuse, qui était accompagnée de son papa qui est pianiste, et en fait on est montées toutes les deux sur scène avec ma petite mamie, et ils nous ont fait un portrait musical, Auristel et son père, et c'était un moment super fort. Mamie en fait avait rappelé sur scène l'importance de la musique pour se régénérer un peu, pour faire du bien sur la maladie.
Tout à fait, j'ai été très très émue de sa prestation et j'ai senti des émotions très très fortes.
Et bien, merci d'avoir accepté de témoigner avec autant de sincérité. Merci d'avoir montré que Parkinson, ce n'est pas seulement une maladie, c'est une façon de continuer à vivre, à choisir, à espérer. Et pour les étudiants qui nous écoutent, si vous avez un proche malade, osez être présent. Même jeune, on peut devenir un soutien essentiel. Même jeune, on peut faire la différence.
Merci.
Merci, mamie. Merci encore à ma petite mamie d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions. On change complètement de sujet. On va parler de comment voyager sans le sou avec Marine.
Salut la team étudiant et étudiante.
On se retrouve aujourd'hui dans les astuces de la semaine, mais cette fois-ci pour des astuces bien différentes des autres, car oui, aujourd'hui on va parler d'études, mais bien plutôt de bons plans vacances. Et en plus, c'est trop chouette, parce qu'avec l'interview d'Erwan, on a parlé pas mal d'argent, etc., d'économie et tout. Et là, aujourd'hui, je vais justement vous parler et vous proposer des astuces pour gagner de l'argent tout en partant en vacances. Et oui, en tant qu'étudiant, ça y est, tu es sûrement en vacances ou bien en stage pour les plus courageux. Mais quoi qu'il arrive, ton rythme de vie a changé et tu peux désormais te dégager plus de temps pour toi, comme conseillé dans nos chroniques santé mentale d'ailleurs. Et qui dit mois de juin dit recherche de spots pour les vacances d'été. Parce que oui, parmi nous, il y a toujours quelques retardataires qui s'y prennent à la dernière minute.
Bah, qui s'y parle.
Par exemple, comme Myria qui termine d'écrire ses chroniques jusqu'à pas d'heure la veille pour le lendemain. Mais t'inquiète, je suis justement là pour te présenter quelques bons plans et bonnes habitudes à avoir pour partir en vacances entre potes et sans trop que ça te coûte d'argent. Bon, déjà, quand on part à plusieurs, la première difficulté est de se mettre d'accord sur le choix du lieu, de destination, et ça, c'est pas une mince affaire. Alors, première astuce, je te conseille de ne pas partir trop loin et de choisir une destination proche. Et toi qui m'écoutes en tant qu'étudiant angevin, sache que nous avons la chance d'être relativement proche du port de mer, notamment avec la côte vendéenne à moins de 2 heures de route. Tu as également Noirmoutier ou l'île de Ré qui sont facilement accessibles et surtout paisibles. Alors, tu l'auras compris, la première astuce que je te donne est de choisir une destination proche pour éviter les billets d'avion trop coûteux et plutôt favoriser le covoiturage avec les blablacars ou les billets de train avec des avantages étudiants. Parce que oui, la SNCF propose des avantages jeunes avec des cartes de réductions importantes qui te permettent de voyager à faible coût. Tu as la carte avantage jeune de 49 euros par an pour les 12-27 ans qui offre de nombreuses réductions sur les billets TGV Inouï, Intercité et TER en France. Et attention, info importante qui te concerne aussi, dans notre superbe région des Pays de la Loire, des tarifs préférentiels sont à ta disposition via la carte TIVA pour les 15-25 ans qui offre près de moins 50% sur tous les trajets TER. Bon, ça fait beaucoup de publicité, mais qu'est-ce que tu attends pour t'abonner et voyager pour ne plus avoir à payer ton essence? Bon, partir en vacances, c'est bien beau, mais faut-il trouver un logement quand même? Alors, soit tu fais partie de la team qui adore organiser les vacances et trouver les meilleurs bons plans, ou soit tu fais plutôt partie de ceux qui trouvent ça long et chiant et qui préfèrent se laisser porter. Toi, Myria, tu fais partie de quelle team?
Contrairement à ce que tu crois, moi j'organise tout, ok?
Bon, peu importe, il faut que tu sois au courant des astuces pour trouver un logement rapidement et pas gratuitement. Bon, je voulais continuer dans les rimes. Bon, nous avons les Airbnb. Donc à plusieurs, le prix devient très attractif. Pour cela, je te conseille de cibler des apparts ou des maisons dans des villes plutôt excentrées, moins touristiques. En gros, faut pas que tu sois trop exigeant et ne t'attends pas à être face à la mer. Ensuite, nous avons aussi les auberges de jeunesse. Quoi de mieux que d'être dans une ambiance conviviale et à des prix vraiment pas chers?
Vraiment.
J'espère que t'as la ref. Bien sûr. Pour ça, tu peux par exemple chercher sur Booking. Nous avons aussi donc les campings qui sont bons.
Miam, miam, miam.
Les campings, pardon, qui sont vraiment pas chers. Et alors, si toi qui m'écoutes, si tu aimes l'aventure et la nature, le camping ne peut que te plaire. Déjà parce que c'est une solution très économique. Et surtout, si tu décides de partir en tente, et en plus de ça, tu pourras faire des rencontres. Mais pour cette option, vaut mieux penser à réserver tôt. Même pour les petits campings. Tu peux également retrouver plein de bons plans logement sur des sites comme Facebook, Le Bon Coin ou Immo Jeune. Alors, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce que l'on fait? Juste on profite? On fait quoi, Myria?
Bah oui, je suis même. Nous, c'est à toi de me dire. Je t'écoute.
Alors, un proverbe dit bien, il faut se satisfaire du nécessaire.
Ah, mais meilleur proverbe.
Mais bien sûr, qui dit vacances dit aussi sortie. N'oublie surtout pas qu'en tant qu'étudiant, de nombreux avantages s'offrent à toi. De nombreuses visites culturelles te sont offertes, comme les musées par exemple. Et l'été, plein d'activités sont gratuites. Pour les plus fêtards, c'est les saisons des festivals. Pour les plus farnientes, vamos a la playa. Et pour les plus sportifs, go go go, la rando. Sache que tu peux aussi te rendre sur place à l'office de tourisme pour te renseigner sur les différentes activités qui sont proposées. Et tu peux aussi télécharger des applications locales pour repérer les bons plans. Et ça y est, c'est la fin des astuces étudiantes. J'espère qu'elles te seront utiles. Tu as maintenant de quoi t'organiser pour profiter un max avec tes potes cet été. En attendant, on n'oublie pas de se protéger du soleil. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ces astuces sur notre site radio-g.fr à la rubrique Étudiant Time.
Voilà, tu sais maintenant comment voyager, même si tu n'as que 20 euros sur ton compte ou moins. Avant de parler de santé mentale, j'espère que vous avez eu vent du nouvel album d'Orelsan. Donc le son qu'on va écouter aujourd'hui s'appelle Encore une fois, en feat avec le super Yamé. Bonne écoute.
J'ai trop envie d'une vodka Red Bull.
Grave, j'ai trop envie d'une clope.
T'as beau arrêter de boire depuis longtemps, ça disparaît jamais vraiment.
Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à 18h, donc j'y vais. Je suis la définition d'être en roue libre. C'est même plus des mauvaises habitudes, c'est la routine. La tisse, les clopes, la weed, les potes, les joints. Je dis que j'arrête comme ça, 4 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Les balcons, les terrasses, les bouteilles, les flasques. Y'a toujours un mec défoncé qui m'a bizarre dans la glace. Nicotine sous angine, dans les poumons, dans les veines. Et je continue de répéter que ça m'aide à gérer mes problèmes. En gros, ça c'était moi avant. Normalement, maintenant, je suis pas là-dedans. Mais de temps en temps, le passé refait surface. Et j'entends cette voix qui me dit:
Hello, comment ça va? Moi ça va pas. Je suis l'ancien toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là. La 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 la. Pourquoi tu me calcules pas? La 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 la. Encore une fois, on se revoit, toi.
De stress, tu crames tout pour une puff. Je suis comme Sukuna, j'attends un faux pas. Le passé qu'on a, oublie-le si tu peux. Tu dis que c'était avant, arrête de mentir. Tapage et chant, non, c'est juste le produit. Au lieu de rouler, tu scrolles à l'infini devant des vidéos de notre ancienne vie. Et quand sans marron, la vie vire au gris. Le bonheur, le vrai, n'est pas dans les sourires. Regardez qui s'efface, on voit qui est qui. Même le boss final se fera kill.
Dès que je sors la tête de l'eau, il veut me faire replonger. Dès que je commence à m'élever, il veut me faire retomber.
Tu veux pas vraiment les battre, tes démons.
Des fois, y'a rien d'autre à faire que de couper les ponts.
Comment couper les ponts? T'as gardé le plug. T'as gardé une taille au cas où il pleut. Tu déprimes, c'est pas la qualité. J'suis pas ton ennemi, j'suis ta vérité. Même fuite, même vide, même problème. Tu te drogues autrement, mais tu drogues quand même.
D'écouter encore une fois par Orelsan en featuring avec Yamé. Alors, dans la chronique santé mentale du jour, je vais te parler de notre ami ou ennemi ChatGPT. On constate que depuis ces dernières années, de plus en plus de gens utilisent des IA conversationnelles en guise de thérapeutes, comme ChatGPT, Gemini ou Claude. Là, il n'est pas question de robots physiques, hein, juste des logiciels qui répondent comme des humains. Et ça devient courant parce que les délais pour voir un psychologue sont parfois très longs. On a une vraie urgence de santé mentale, pas assez de professionnels et toujours des questions financières importantes à prendre en compte. Alors oui, l'IA est toujours disponible, elle ne dort pas, ne tombe pas malade, elle n'est jamais en retard et elle ne vous dit pas « désolé, j'ai plus de place ». Et quand on va mal, cette disponibilité permanente peut rassurer. Mais il y a un problème, quand on est déprimé, on peut avoir l'impression de ne plus être vraiment humain soi-même. Et paradoxalement, c'est justement la présence d'un humain qui nous aide à redevenir nous-mêmes. Une IA ne vous regarde pas, elle ne capte pas vos micro-expressions, elle ne va pas vous tendre un mouchoir quand vous pleurez. L'empathie humaine, ça se ressent dans le corps. Il faut être honnête, si autant de gens se tournent vers les IA, ce n'est pas juste parce que c'est pratique, c'est aussi parce qu'on manque de tolérance relationnelle. On a tellement peur d'être jugé, rejeté, déçu, qu'on préfère un outil qui ne contredit jamais, qui ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas forcément l'IA qui détruit les liens, c'est le fait qu'on n'ose plus affronter l'imperfection des autres. Sauf que parler à une machine a des conséquences. Une IA renforce souvent nos croyances erronées. Si vous êtes bloqué dans une vision négative de vous-même, elle peut, sans le vouloir, vous conforter dedans. Elle suit votre logique, même quand elle est fausse, alors qu'un humain, lui, vous confronte. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce jeune de 16 ans, Adam Rain, dont le suicide a été associé à des échanges prolongés avec ChatGPT. On ne peut évidemment pas réduire un drame aussi complexe à une seule cause, mais ça montre une chose, une IA n'est pas la solution parfaite. Et il y a autre chose, beaucoup de gens cachent qu'ils parlent à ChatGPT pour aller mieux ou cachent l'ampleur de leur utilisation. Pourquoi ? Eh ben, parce que derrière, il y a une forme de honte. On sait que ce n'est pas vraiment bon pour nous et que ça a un impact environnemental et psychologiquement, le fait de sentir qu'on échange avec quelque chose de froid créé par une entreprise de la Silicon Valley, une fois de plus, qui utilise probablement toutes nos données pour gagner toujours plus de thunes en profitant de notre détresse, eh ben, ça a un vrai impact sur l'estime de soi. Alors, attention, l'idée n'est pas de dire que l'IA est forcément dangereuse. Elle peut être utile en tant qu'outil, comme un soutien ponctuel, un complément. D'ailleurs, certains hôpitaux l'utilisent déjà pour accompagner les soignants. Mais une IA ne peut pas être un bon thérapeute. Parce qu'une thérapie, c'est la rencontre entre deux consciences. C'est un lien, un conflit parfois, une coprésence, un miroir. Et très souvent, nos problèmes viennent justement de nos relations aux autres. Dans l'état de l'Illinois, ils ont carrément interdit l'IA en tant que thérapeute. Est-ce que c'est la bonne solution ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais cette question-là, elle reste essentielle. De quoi avons-nous vraiment besoin pour aller mieux ? Et comment recréer du lien dans un monde où tout peut être remplacé par une machine ? Je vous propose, vous sur ce plateau, de discuter un peu de ce sujet. On a 10 minutes pour faire un débat. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh ben, moi personnellement, je peux être amené à utiliser beaucoup l'IA, mais c'est que pour mes cours. Enfin, je suis pas du tout dans ce que tu disais.
Je cherche pas un rapport thérapeutique avec.
J'ai jamais eu besoin déjà premièrement. Après, je comprends que si certains aient besoin, ce soit ça apparaît comme le moyen le plus facile, parce qu'on peut trouver ça compliqué d'aller en parler à quelqu'un, et du coup on se dit qu'une IA c'est peut-être mieux, mais au final, bah, comme tu l'as dit, ça reste un robot entre guillemets qui peut pas nous comprendre bien comme il faut. Mais du coup oui, pour en revenir à moi plus personnellement, non, moi je l'utilise pas, en tout cas à des fins thérapeutiques.
D'accord. Est-ce que Malu, ça t'est déjà arrivé d'utiliser une IA en tant que psy en fait?
Jamais de la vie. Alors sans vouloir juger les gens qui le font, c'est juste que moi j'ai une profonde aversion pour tout ce qui est IA générative type ChatGPT.
Pourquoi ça ?
Parce que c'est complexe, hein. On a que 10 minutes.
Mais... on a 10 minutes, là il nous reste 9 minutes, donc vas-y, t'as le temps.
Mais en gros c'est un logiciel qui fait semblant de savoir parler, c'est très très complexe à faire, mais pour ça il a fallu voler énormément de données aux gens, par exemple chaque livre sur Terre, enfin chaque livre qui est disponible sur Internet a été volé, chaque œuvre d'art, chaque film, tout a été ce qu'on appelle scrappé en anglais, donc vraiment dérobé en fait, pour nourrir cette base de données qui doit être de plus en plus énorme afin de fonctionner normalement, et c'est horriblement injuste pour tous les gens qui ont créé ces choses-là, de pouvoir générer en quelques secondes un livre dans le style d'un auteur qu'on aime bien, ou une image dans le style de, je sais pas, par exemple d'un studio Ghibli ou ce genre de choses.
Par exemple
au hasard. Moi, je trouve que c'est profondément anti-art et ont fait une école d'art et étant passionné par l'art de manière générale, forcément, c'est pas trop mon délire. Après, je n'utilise pas l'IA de manière générale, mais c'est vrai que je peux comprendre que certains et certaines en ressentent le besoin, puisque aujourd'hui, on est dans une génération et dans un monde même qui s'isole de plus en plus. Et c'est vrai que c'est compliqué de se faire des potes. Hein. C'est compliqué de parler aux gens, c'est compliqué de trouver des gens à qui parler. Et puis c'est vrai que la thérapie, même si on en parle de plus en plus, surtout dans notre génération, c'est vrai que c'est encore pas tout à fait rentré dans les mœurs. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
C'est ça. Du coup, il y a certains préjugés de la part d'un peu tout le monde. Plus, il y a un autre sujet que tu n'as pas abordé, auquel ça m'a fait penser, c'est le fait que ça aille même encore plus loin que ça. Là, tu parlais de prendre le temps, de lire un livre de quelqu'un qui a mis peut-être parfois plusieurs mois, plusieurs années pour récolter des informations précieuses, etc. Mais en fait, les gens n'ont plus le temps.
Oui,
en fait,
ça,
les gens ne prennent plus le temps. Choisissent de mettre leur temps justement ailleurs, ont l'impression que c'est inutile et que justement ils vont avoir accès en une recherche aux informations nécessaires ou importantes d'un bouquin. C'est la même chose pour l'art, ça coûte cher de payer des artistes, ça coûte cher de payer des rédacteurs, genre c'est du coup à chaque fois, qu'est-ce qui va plus vite, c'est faire une recherche sur ChatGPT ou avoir bonne conscience et se dire qu'on paye des vrais humains derrière. On sait déjà la réponse malheureusement, mais même si on n'est pas d'accord, parce que du coup on sait que c'est pas éthique, mais pourtant c'est clairement ce qu'on fait, et du coup j'ai un peu envie de dire, nous jeunes, qu'est-ce qu'on fait de ces infos-là, quoi. Est-ce que... je sais pas, t'allais dire quelque chose?
Non, ouais, j'allais juste dire, moi je blâme pas tant les utilisateurs plutôt que les créateurs de ce système-là.
Ça se comprend. Et d'un autre côté, est-ce que si on essayait de faire autrement, peut-être que ceux qui ont les moyens et qui gèrent justement, qui bossent à la Silicon Valley, mettrait pas en place de nouvelles choses qui soient plus éthiques si nous on les forçait si nous on payait que des trucs éthiques en fait. on mettait en avant ce truc éthique, parce qu'il y a aussi peut-être que là je pars dans un autre sujet encore, pour moi c'est la même chose, mais on fait une énorme différence entre l'écologie, entre la nature et nous, êtres humains, comme si on faisait pas partie de la nature, comme si en fait on passe notre temps à dire que les humains, c'est les méchants contre la nature et tout. Et je comprends complètement pourquoi on dit ça. C'est parce que on pollue énormément, on fait beaucoup de constructions, on a tout notre système économique, etc., qui va à l'encontre juste de la nature, on va dire. Mais en fait, c'est partir du postulat que nous, êtres humains, on ne devrait pas être là, et pourtant on l'est. Ce que je veux dire, c'est que même une table, au final, elle a été créée parce que il existe des arbres dehors, quoi. Enfin, en fait, tout fait partie de la nature quand même, et nous, on fait partie de la nature, et s'il n'y a pas la nature, et là j'ai l'impression de parler comme un gamin de 5 ans, et en fait, on n'est pas là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en différenciant la nature de nous, êtres humains, en pensant que nos habitations, nos maisons ne sont pas la nature. On crée une distance inexistante, imaginée. Et du coup, les gens deviennent insensibles à la nature comme si elle n'était pas nécessaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Non, c'est assez clair.
Oui.
Mamie, toi qui es d'une autre génération, j'imagine que t'es un peu dépité en vrai en entendant ce sujet de ChatGPT avec la...
C'est un sujet fondamental. Hein.
Oui.
Moi, je ne le rejette absolument pas. Je reconnais que ça peut être un outil extraordinaire, mais il y a un grand mais, quoi.
C'est
moi, j'ai une phrase qui me revient toujours. On est hyper connecté au jour d'aujourd'hui, mais on n'est pas relié. Et j'accorde une grande importance à la présence humaine plutôt qu'à l'écran, quoi.
Bien sûr.
Sans rejeter l'outil.
Est-ce que toi, ça t'arrive d'utiliser des IA?
Mais moi, c'est occasionnel, oui, ça m'arrive, mais pour quand je un sujet qui m'intéresse, un mot que je ne connais pas, ou c'est des choses très pratiques, hein, ça peut être une recette de cuisine et puis qu'on coquette tout un petit menu, des choses comme ça, hein, c'est amusant, je m'amuse aussi.
Oui, mais Colin, par exemple, toi aussi, tu disais que tout à l'heure, tu utilisais l'IA pour plutôt pour les cours ou pour d'autres choses que la santé mentale. Mais est-ce que du coup, ce côté éthique, ça te dérange pas pendant que tu fais la recherche? Sans culpabilité et tout, c'est juste voir un peu, bah, tu prends ça en compte quand tu le fais, peut-être pas du tout, tu sais, comme quand on mange de la viande, enfin, je sais pas s'il y a des végétariens sur le plateau, mais quand on mange de la viande, on se rend pas forcément compte que c'est un animal qui a été tué dans un abattoir, blablabla. Ah, pourtant, on le sait, mais voilà.
Oui, non, bien sûr, mais tu vois, par exemple, je suis en formation pour être journaliste, et on sait que c'est un métier où l'IA prend de plus en plus de place. Et c'est indéniable quelque part, enfin on pourra pas y échapper, et les journalistes déjà actuels ne peuvent pas y échapper. Et du coup, il faut mieux s'approprier l'outil et l'utiliser d'une bonne manière. Je dis pas que, tu vois, je vais générer des articles entièrement avec l'IA en pompant le travail de journalistes qui ont passé du temps à le faire. Mais je dis que, ouais, il faut apprendre à travailler avec, parce que bien utilisé, bon, même s'il y a beaucoup de dérives, bien utilisé, ça peut être un outil très intéressant qui amène des chiffres ou des recherches que moi, si je les fais de mon côté, je trouverais pas forcément, parce que j'ai pas les bonnes manières de rechercher. Ça peut être aussi je l'utilise plus en moteur de recherche des fois qu'en IA générative en elle-même, qui va vraiment générer des trucs, comme Malo disait, pompés sur certains créateurs, Studio Ghibli, etc.
Ok, je vois ce que tu vas dire. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Il nous reste une minute pour le débat. Est-ce que vous, par exemple, s'il y avait une alternative à ChatGPT, ou alors, admettons que demain ChatGPT soit interdit, qu'est-ce que vous faites en fait? Comme si je dis ça comme si on avait grandi avec ChatGPT, ce qui n'est pas le cas, mais pour ma part, je sais que je serais un peu perdue pour certains trucs, parce que pareil, j'utilise parfois pour travailler. Et là, si d'un coup, j'ai plus ça, j'ai l'impression que ça me ferait perdre énormément de temps sur plein de choses. Je sais pas si c'est votre cas. Il y a un truc de... parce que ça fait gagner le temps. Enfin, quand tu vois ChatGPT comme un outil, justement, comme on disait, pour les côtés plutôt positifs, t'as l'impression de perdre un assistant un peu de travail, quoi.
Ah, moi, je suis plutôt d'accord là-dessus, que je sais que ça peut m'aider vraiment par résumer des cours. J'ai des très longs cours et puis il me les résume, et là c'est vraiment pratique. Mais en même temps, je me dis, moi, l'IA, je l'ai découvert quand j'étais en terminale, c'est il y a quoi, il y a 3-4 ans. Le monde tournait aussi quand il n'y avait pas tout ça. Donc, si jamais ça s'arrête, on arrivera à faire autrement. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même très beaucoup rentré dans les quotidiens de tout le monde.
C'est devenu un petit confort qui nous fera un petit peu chier de perdre. Et d'un côté, il y a tellement de conséquences que bon, on voit là où on met nos priorités. En tout cas, merci pour ce débat, c'était intéressant. Et maintenant, on termine sur une note beaucoup plus positive et sympa avec Malo, qui va te donner toutes les sorties, événements et bons plans à ne pas rater cette semaine. C'est le moment de tout noter. Malo, à toi le micro.
Eh bien, comme la dernière fois, je passe en dernier, mais je dis quand même bonjour à tout le monde. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que l'émission du jour vous a plu. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle chronique sur les sorties du moment, dans laquelle on va surtout parler bouffe, je vais pas vous mentir, mais aussi festivals et marchés de Noël. Pour démarrer, on va commencer par parler sorties culturelles avec du cinéma et un festival de BD. Puisque, en effet, pour sa 26e édition, le festival Angers BD investit encore une fois le centre des congrès le 6 et 7 décembre prochain. Côté culture, donc, on vient de parler du festival Angers BD qui en a sa 26e édition et qui, en plus de rassembler plus de 2500 visiteurs par an sur 2 jours, permet de rencontrer plus de 40 auteurs du genre, avec des invités aussi bien locaux et même angevins, comme par exemple Tony Emerio, que vous avez peut-être vu dans une vidéo d'Amixem ou dans les couloirs de l'EGP en train de vanner ses élèves. Enfin, moi, il me vannait en tout cas, j'étais pas... Bref, j'aime bien Tony. Ou bien internationaux comme Barbara Canepa ou Giuseppe Manunta, venus tout droit d'Italie. Au programme, bien sûr, des rencontres et des dédicaces, mais aussi des expositions, un concours de dessin, des conférences en tout genre et également une collaboration avec des viticulteurs locaux. Le festival propose en effet des bouteilles de vin, de bière et des menthe pastilles avec des étiquettes originales réalisées par les auteurs invités. Au cinéma, cette semaine, on pourra retrouver au pâté Zootopie 2, une leçon d'humanité dispensée par des animaux, qui me fait très mal à l'ego. Wicked partie 2, pour ceux qui aiment les comédies musicales, pardon, ou qui, comme moi, n'attendent que l'officialisation du couple Ariana Grande et Cynthia Erivo.
Je l'attendais, celle-là.
Insaisissable 3, j'avais acheté un paquet de cartes quand le 2 est sorti, je sais toujours pas faire un seul tour, c'est terrible. Ou bien Jean Valjean, encore un film tiré d'un roman qu'on aurait dû lire à la place de La Princesse de Clèves, Les Misérables de Victor Hugo. Bon, si jamais la culture, c'est pas votre truc, comme dit en introduction, on enchaîne et on va désormais parler de mon sujet préféré, la nourriture. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'application Club avec un K ? C'est une application qui permet, tenez-vous bien, d'obtenir plein de réductions et de bons plans, notamment dans les restaurants. Et si je vous en parle, c'est évidemment parce que l'une des villes proposées par l'appli est Angers. Alors si vous voulez profiter de plus de 50 offres et bons plans du type 1 acheté, 1 offert, il suffit de télécharger l'appli et de s'inscrire. Ça prend 2 minutes et ça mange pas de pain. En parlant de pain, et vu que je suis le maître des transitions, j'ai décidé de mon propre chef de m'improviser guide Michelin et de vous recommander deux enseignes où manger le midi ou le soir. Et on commence par le meilleur endroit pour manger des sandwichs à Angers. J'ai nommé les miches de Marguerite. Le concept est simple. Vous venez, vous choisissez votre pain et vous composez votre sandwich. C'est forcément bon, c'est vous qui l'avez fait. Évidemment, c'est local. Évidemment, c'est frais. Il y a des changements de carte réguliers, comme ça vous pourrez y retourner souvent. C'est génial. Ensuite, Mamaroli. Une enseigne où vous pourrez déguster ou commander de la street food du monde entier. C'est simple, que vous vouliez des quesadillas, des falafels, du mac and cheese, du poulet, un tacos ou même des rouleaux de printemps. C'est possible chez Mamaroli. Et pareil, c'est local, c'est fait maison. Perso, j'adore. Enfin, si rien de tout ça ne vous a rassasié, vous pourrez toujours faire un tour au marché de Noël, histoire de se prendre un petit verre de vin chaud, si vous aimez le vin. C'est à partir de ce week-end, mais ça, Colin vous en a déjà parlé. Pour terminer, je vous rappelle que vous avez que jusqu'au 1er décembre pour aller à la foire Saint-Martin avant qu'il remballe pour cette année. L'occasion de manger quelques chouros et d'aller faire la chenille parce que tout le reste, il y a trop de sensations. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Malo. J'en profite pour poser une petite question pour l'équipe et pour les gens sur le plateau. Est-ce que vous trouvez que les jeunes, on va toujours faire des sorties culturelles en 2025? Parce que moi, j'essaye d'y penser, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand je sors avec mes amis, c'est pas forcément la première idée qui me passe par la tête d'aller voir les festivals et les expos du moment. C'est pour ça que j'en parle dans cette chronique, mais c'est vrai que j'y pense pas toujours. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une bonne question. À mon avis, c'est juste qu'on déplace un peu la culture. C'est pas parce qu'on va pas dans un musée qu'on va plus au cinéma, par exemple. Ou que, si on assiste... à la foire ou à d'autres événements, en fait, ça reste quelque chose de culturel et une expérience qu'on fait entre amis, entre jeunes. Et en vrai, j'ai dit qu'on n'allait plus forcément dans les expos, mais en fait, il y a quand même beaucoup de jeunes qui vont dans les expos. Tout à l'heure, déjà, on est deux étudiants à avoir fait des études en art sur ce plateau. Je pense que la culture pour les jeunes n'est absolument pas morte, bien au contraire.
Et pour ma part, ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais, toi, Malo. C'est vrai que moi aussi, quand je sors, je pense pas forcément aux expos, etc. Mais je sais qu'on essaye quand même, et puis on pense souvent. Moi, je vais au cinéma, enfin, j'essaye quand même au maximum, parce que c'est des trucs qui me plaisent. Mais c'est vrai que peut-être que par rapport à d'autres générations, on y pense moins, mais comme disait Myria, je pense qu'on est loin d'être désintéressé non plus de la culture.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est trop bien.
En tout cas, merci beaucoup Malo, tu me fais toujours super rire avec tes chroniques. Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième émission de la nouvelle saison d'Étudiant Time. Aujourd'hui, on aura parlé d'actu avec Colin, du BTS communication avec le dactylo, de la maladie de Parkinson avec ma mamie José Robert, de comment voyager sans le sou avec Marine, de ChatGPT en tant que thérapeute dans la chronique santé mentale et des super sorties à faire en ce moment. Merci à toute l'équipe, Colin, Malo, le dactylo et bien sûr notre invité du jour, Mamie. C'était Myria, retrouve Étudiant Time le mois prochain, même heure, pour une nouvelle émission. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été fidèles au rendez-vous. Vous êtes bien sur Radio G.
Chouchi. 101.5 FM.
Le défi 24 heures en GT Télétour.